franceinter.fr.
Campagne, bonjour et bon 1er mai. Nous ouvrons cette semaine une série de rendez-vous en Occitanie par l'intermédiaire d'un département typiquement rural et très novateur en matière d'accueil de population, impressionnant par ses rendez-vous culturels nombreux, parfois prestigieux, Vic-Fezensac ou Marciac par exemple, et grandement orienté vers l'économie numérique. Nous sommes dans le Gers, une faible densité d'habitants, ça c'est bien connu, avec une moyenne de 30 habitants au kilomètre carré, mais une forte fréquentation touristique guidée par les bonnes tables et un environnement naturel de qualité. Ici, le Gers, c'est la Gascogne. D'ailleurs, le site du département annonce le conseil départemental du Gers en Gascogne. Il annonce surtout dans ses colonnes qu'il fut le premier de la région en 2012 à élaborer un schéma directeur d'aménagement numérique, ce qui permet à l'ensemble des habitants du département de profiter d'un haut débit et à plus de 60% de cette population d'être raccordée à la fibre optique. À plusieurs reprises, nous avions fait état, et on va le poursuivre, de la stratégie d'accueil de télétravailleurs dans les villages du département. Le dispositif Solo, donc toujours en fonction, donne 3 arguments pour attirer les futurs candidats à l'installation à la campagne. Tout d'abord, le calme, ça c'est évident, surtout à 30 habitants au kilomètre carré, vous êtes où ? Mais ça peut être très, très agréable et de plus en plus prisé par certaines populations surmenées par la cohue urbaine, la culture très présente. Il faut savoir quand même qu'il y a 12 salles de cinéma pour 100 000 habitants contre 8 en Île-de-France. J'ai découvert ça, et dans les proportions, c'est assez étonnant. Et une vie évidemment moins chère, en sachant que le mètre carré se loue 8,28 € dans le Gers, en moyenne, contre 28 € à Paris. Ça aussi, c'est un argument. Solo, trait d'union Gers.com. Les deux invités de ce 1er mai sont Christine Avril, je suis désolé, on s'est trompé du mois, conseillère d'entreprise à la CCI, à la Chambre de commerce et d'industrie du département, et surtout initiatrice de ce qui est appelé maintenant OxyStart 32, la plateforme de crowdfunding qui implique les particuliers dans le financement des entreprises locales. Et puis, second invité, Olivier Nattès. Olivier, artiste plasticien, lauréat d'un concours art et environnement pour le projet baptisé La Nourrice, qui se présente comme un jardin-forêt comestible et habitable.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Christine Avril, bonjour.
Bonjour.
Et Christine, vous êtes conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie du Gers. Et vous êtes à l'initiative d'une plateforme de financement participatif de crowdfunding qui s'appelait Graines de Gers, qui depuis 2 ans et demi qu'elle est lancée a pris le nom maintenant de OxyStart 32. Et c'est une drôlement bonne idée. Alors, on va expliquer comment elle fonctionne. D'abord, votre première préoccupation, c'est-à-dire quels sont les leviers pour aider les projets d'entreprise à s'installer dans le département.
Oui, voilà. C'était trouver une solution supplémentaire, complémentaire au financement des entreprises, qu'elles soient petites ou plus importantes, de notre département du Gers.
Et en général, il y a de moins en moins de moyens pour aider les entreprises, et donc on se retourne vers les plateformes collaboratives ou de financement participatif.
Je dirais pas qu'il y a de moins en moins de moyens, quand même. Il y en a des moyens, il y a beaucoup d'autres initiatives, mais je pense que cette nouvelle forme de financement, elle fait partie d'un nouveau lien entre les citoyens et l'entreprise. Et c'est comme ça, c'est ce qui a fait aussi notre volonté d'aller vers là, parce qu'on est sur un territoire hyper rural dans le Gers, et que on avait une volonté de rapprocher le citoyen de l'entreprise, de mieux faire connaître l'entreprise aux citoyens, parce que une entreprise c'est des gens, et qu'il fallait que les choses se rapprochent. Et le financement participatif, la genèse, hein, les premières plateformes, ça a été ça quand même, c'est une implication des gens sur un projet.
Oui. Et j'aime bien cette idée, parce que les bonnes idées naissent de conversations. À une époque, quelqu'un vous dit, dans le cadre d'une réunion et d'une journée sur l'innovation dans le commerce, et toi, tu verrais quoi comme initiative ? Et j'aime bien cette idée, et vous allez avoir le réflexe de faire appel à une plateforme qui se veut surtout une plateforme de crowdfunding local, qui est Bulb in Town.
Oui, absolument. Voilà, c'est l'histoire d'une rencontre de ces jeunes, de cette équipe, qui avait la même volonté que nous de financer la proximité, de créer du lien social. Et voilà, donc on a fait les choses ensemble et ils ont grandi avec nous. Ils ont grandi avec la plateforme Graines de Gers aussi, avec la notoriété qu'elle a acquise et qui a fait que d'autres CCI ont suivi ce modèle-là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'à une plateforme régionale et le changement de nom de Graines de Gers vers Oxystart en fait.
Est-ce que vous avez l'approbation en lançant le principe de plateforme de crowdfunding, vous, CCI du Gers, est-ce que vous avez eu l'approbation de tout le monde, y compris des entreprises bien ancrées dans le territoire et des élus ?
Oui, tout de suite. Alors la raison, je la connais pas vraiment, mais celle invoquée, c'est toujours la même. C'est notre souci de proximité, de créer du lien, d'offrir un moyen de financement supplémentaire aux entreprises.
Oui.
Parce que, bon, voilà, une entreprise, elle se finance par du bancaire et que le bancaire, bon, il n'est pas absent, mais comme on pouvait penser le dire tout à l'heure, mais enfin, il est quand même peut-être moins présent, il a été moins présent à une certaine période. Et de toute façon, il a besoin qu'on l'aide à prendre sa décision, le secteur bancaire aussi.
Oui, oui. Alors, même si la chose se réalise sur plateforme numérique, est-ce que cela interdit des réunions publiques, c'est-à-dire mettre face à face la population et les porteurs de projets ?
Alors, ça n'interdit absolument pas, au contraire, puisqu'à chaque fois qu'une campagne est réussie, ben, la plupart du temps, il y a quand même une petite fête à la clé. Hein.
Oui.
on l'a eu sur notre premier projet qui était la boucherie du village à Barcelone du Gers. Non, le vrai lien social en face à face, il existe. La proximité, elle joue à tous les niveaux.
Alors, c'est très encourageant ce que vous faites. D'ailleurs, tous les projets sont réussis. Hein, et vous avez
La performance, elle est là.
La performance, elle est là.
Parce qu'il n'y a pas eu énormément de projets. Mais elle est dans le fait que tous les projets ont abouti.
Ouais, mais c'est que la plupart du temps, vous donniez l'exemple de la boucherie de Barcelone du Gers, il y a la plateforme qui fonctionne et ce qui ressort de la plateforme permet aux porteurs de projets d'avoir une réponse positive des banquiers. Mais est-ce que ce ne sont pas les banquiers qui seraient encore à l'égard des projets locaux trop frileux ?
Ben, je peux pas vous donner cette réponse, non. Sincèrement, je pense pas. Peut-être que dans ma position de conseillère d'entreprise à la CCI, j'ai une relation privilégiée avec les systèmes bancaires qui fait que si j'accompagne un projet, je vais peut-être pouvoir le professionnaliser, enfin l'accompagner vers ces interlocuteurs-là de manière à ce que ça fonctionne le mieux possible. Mmh. Donc voilà, ma vision en tant de technicienne, elle est celle-là.
Ouais.
Et puis dire évidemment que la campagne, ça ne peut être qu'un bien parce que ça professionnalise le porteur de projet aussi. Il est obligé de bosser sur une page, de montrer son projet.
Ouais.
Voilà, c'est une campagne de communication, une campagne de financement participatif. Ouais, aussi, faut pas l'ignorer.
Et ce qui est bien dans le principe, vous avez eu un amplificateur d'information avec la Dépêche du Midi. Est-ce que d'autres CCI ont pris le relais?
Voilà, les autres CCI de l'ancienne Midi-Pyrénées se sont joints au processus et vont effectivement créer chacune une plateforme qui va se décliner, donc Oxystart 31, 82, voilà, et qui vont être hébergées sous une plateforme générique qui va s'appeler Régional Oxystart. Donc tout ça en partenariat avec le groupe de la Dépêche du Midi et qui va nous faire bénéficier, bien entendu, de sa force de communication.
Quoi. Ah oui, puis Oxystart sera en accord avec l'Occitanie.
Bien sûr.
Le site, c'est oxystart32.fr. En revanche, on a gardé Graines de Gers pour la page Facebook et les adresses s'affichent à nos pages d'émission. Bravo et merci Christine.
Merci à vous.
Sept territoires, aussi bien ruraux qu'urbains, mettent à profit depuis l'année dernière une stratégie d'attractivité, de création d'emplois baptisée Start-up de territoire. Derrière cette appellation un peu ronflante se cache un catalyseur de projets entrepreneuriaux qui mérite quand même une attention toute particulière. En effet, souvent les projets capotent, faute de soutien ou manque de confiance. Trop esselés, les personnes candidates à la création d'activités peuvent perdre leur énergie dans des démarches lourde ou parfois sans réponse encourageante, la start-up de territoire veut résoudre ces problèmes en réunissant les volontés et les talents de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de l'économie classique, des PME, voire des grandes entreprises, en vue d'inventer l'économie de demain, qu'elle soit circulaire, celle des circuits courts, celle des énergies renouvelables ou qu'elle dépende, par exemple, de la relocalisation artisanale et industrielle. L'expérimentation entamée dans les sept territoires aura pour bénéfice la création d'un répertoire thématique des solutions ayant fait leurs preuves et pouvant être répliquées ailleurs. La constitution d'un réseau d'experts, l'offre d'outils en clé en main est prévue aussi, ainsi qu'une méthodologie éprouvée des coopérations entre les zones géographiques concernées. Le nombre de cette ne relève pas du hasard, mais des premiers promoteurs de cette démarche, la plupart sont passés dans les carnets, à savoir le pôle sud, PTCE, donc pôle territorial de coopération économique de Romans-sur-Isère, dont on connaît l'animateur principal, le groupe Archer, qui a relancé la chaussure à Romans, le collectif Marseille Solutions, accélérateur des entreprises dont nous parlerons en détail dans les Bouches-du-Rhône prochainement. L'association ATIS, Territoire et Innovation Sociale à Bordeaux, le pôle des fermes de Figeac, on connaît aussi, le cluster Jura, engagé dans la transition énergétique, l'Alsace animé par le Labo Régional des Partenariats émanant du Fonds Territorial d'Alsace Active, c'est-à-dire le groupe de réseau de France Active, et puis prochainement le Nord avec Lille. Depuis le lancement de l'opération 2016, des journées de mobilisation se tiennent dans les villes concernées, Romans, Figeac, Lons-le-Saunier, Marseille, et jeudi prochain, ce jeudi, à Strasbourg. Chaque mobilisation est le premier temps fort pour faire remonter, rencontrer les acteurs locaux et pour définir les défis prioritaires, identifier les secteurs d'emploi. Donc ce jeudi au Rhenus Sport de boulevard de Dresde à Strasbourg de 15h30 à 1h du matin, je sais que ça dure longtemps, vous êtes invités, il y a une centaine d'ateliers, on attend 1000 personnes, il est toujours temps de s'inscrire sur le site de la start-up de territoire dont vous allez trouver le lien à notre page Facebook. Voilà, merci pour eux et bravo. Olivier Nattès, bonjour.
Bonjour.
Alors Olivier, on va parler du Gers avec vous, d'un petit village au Biette où vous avez conçu un jardin qui est un jardin forêt comestible habitable. J'avais jamais entendu parler de ce concept, mais vous allez nous expliquer parce que vous nous parlez depuis Marseille, vous êtes en place à Marseille, et oui. Vous avez participé à un concours art et environnement.
Alors en fait oui, c'est un concours qui a été créé par le Biport de Gascogne, en fait c'est une initiative d'une communauté de communes pour créer un parcours de land art en fait sur tout un territoire, oui. Pour amener un petit peu l'art contemporain dans des régions rurales comme ça où on ne s'y trouve pas trop. Et donc ce concours visait à créer une œuvre d'art qui mêle l'art et l'environnement au sein d'un village qui s'est porté candidat évidemment, et qui crée un espace de centralité dans le village et un espace de rencontre intergénérationnelle.
Oui. C'est étonnant le dessin que vous avez fait, parce que vous avez conçu, ça s'appelle la nourrice, jardin, forêt, comestible et habitable, sous une forme circulaire à partir d'un bassin central.
Oui. Bah, en fait, l'idée de ce lieu, c'est de créer donc un espace pour protéger la biodiversité, mais c'est aussi de se dire, on a soit des espaces sauvages, soit des espaces cultivés. Donc, moi, j'ai essayé d'imaginer une sorte de troisième espace qui ne serait pas un espace où l'homme n'intervient pas, mais qui serait un espace où l'homme un petit peu accompagner les choses, un petit peu dans l'idée du précepte de Gilles Clément, de faire le plus possible avec la nature et le moins possible contre. Et du coup, la circularité, c'était aussi, c'est vrai qu'on a des champs carrés, on a des espaces avec des angles un petit peu toujours. Et dans un jardin circulaire comme ça, moi, ça m'a permis, autour d'un bassin central qui est alimenté par un ruisseau, qui lui-même est alimenté par la captation des eaux de pluie récupérées par les toitures environnantes, ça m'a permis, si vous voulez, de créer des circulations et de faire un espace qui ressemble un petit peu à une clairière, c'est-à-dire ce Ce jardin est arboré, il y a 220 arbres qui sont plantés, dont la moitié de fruitiers à peu près. Et l'idée, c'est vraiment de faire pousser une forêt, un petit peu sur le modèle de la permaculture, à savoir que la forêt, tous les ans, elle fabrique son propre sol. Il n'y a personne qui l'aide à faire cet humus si favorable aux cultures. Et du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas imaginer un projet où finalement on a une forêt un petit peu dense comme ça au cœur d'un village, avec des percées évidemment de lumière pour laisser pousser les légumes. C'est l'idée d'un jardin finalement où l'homme va intervenir le moins possible.
Mmh. Vous avez conçu en périphérie donc de cet espace un lieu refuge. Et vous l'avez, alors je vais mal m'exprimer, mais vous l'avez à moitié enseveli sous une butte de terre.
Oui. Alors l'idée justement de ça, d'un espace comme ça de permaculture, c'est-à-dire qu'on va recopier un petit peu des configurations qu'il y a dans la nature. Et donc par exemple, des fois dans la nature, vous vous promenez et vous voyez un certain type de végétation, puis à un endroit, il y a une petite colline ou un petit sursaut. Et en fait, on se rend compte que cette colline, finalement, elle abrite par exemple d'un vent dominant qui vient de l'est ou du nord. Et du coup, dans cette partie du jardin, sur le site, il n'y avait pas d'abri justement au nord pour calmer un petit peu les vents. Mmh. On a décidé de l'enterrer dans l'idée de créer un petit peu un microclimat.
Mmh. Alors, et la serre refuge, comme vous l'appelez, est en ossature bois.
Oui, et la serre refuge, si vous voulez, elle permet aux gens de se poser aussi dans ce jardin, c'est-à-dire de pas seulement passer, mais de pouvoir s'arrêter, de prendre le temps de regarder, d'observer, et du coup de participer à des activités ou à des ateliers qui sont organisés par l'association. À la fois une serre et un refuge. Donc en fait, on va pouvoir trouver dans une petite cuisine et du coup, on peut imaginer qu'il y a les gens du village qui viennent, les personnes âgées qui se mettent au chaud derrière les vitres parce que c'est un bâtiment bioclimatique dans lequel il fait bon et qui peuvent jouer aux cartes pendant qu'il y a une herboriste du coin qui fait un petit atelier ou un petit stage et des enfants, par exemple, du centre de loisirs d'à côté qui sont là et qui, avec une personne âgée du village, va par exemple travailler sur les semis. C'est l'idée de créer aussi au sein du village un calendrier autour de la nature. Si vous voulez, c'est un projet qui, une fois totalement terminé, là il n'est pas encore totalement terminé, va pouvoir permettre à la fois aux habitants du village, mais à la fois à un simple visiteur qui passe comme ça, de trouver les éléments dans ce jardin graphique, avec des fiches, par exemple, fiches action visiteur. Par exemple, vous êtes un visiteur, vous vous dites, tiens, je arrive dans ce jardin aujourd'hui, je me rends compte que je peux remettre du broyat autour des arbres, ou par exemple, enlever la potentille parce qu'il y a une photo, c'est une plante dite envahissante, mais qui prend un petit peu trop de place dans ce jardin. Mmh. C'est un petit peu un projet que j'ai fait en réaction, si vous voulez, aussi à cette monoculture qui envahit un petit peu tout, et notamment le paysage dans cette partie-là du Gers, où on a quand même des exploitations gigantesques, et beaucoup de bois qui ont disparu.
Et Olivier, dernière chose, donc dans le montage de cette réalisation, on est dans la dernière partie aménagement définitif, les derniers aménagements, entre autres, de la serre-refuge.
Alors, il nous reste, à faire tout le mobilier, justement, qui se trouve dans la serre refuge. Il nous reste à installer la pompe aussi pour le système hydraulique et faire les petites cabanes pour les oiseaux et justement toute cette signalétique dont je vous parlais qui va permettre à un visiteur de pouvoir comprendre vraiment précisément le fonctionnement de ce jardin quand il y rentre.
Oui, une campagne de financement participatif va bientôt être lancée pour faire le tour complet de ce projet et arriver à la réalisation définitive. Il y a une page Facebook, c'est la Nourrice aux Biettes, ça s'écrit à UBIET, et puis il y a une adresse électronique qu'on vous donnera si vous voulez entrer en correspondance avec la centaine de membres qui animent la Nourrice, le jardin forêt comestible et habitable. Merci.
Alors, ça c'est les adhérents, il n'y a pas une centaine de membres qui sont sur place tous les jours.
Ça j'imagine, oui.
Mais c'est assez vivant quand même.
Ouais. Merci Olivier.
Merci à vous.
Juste avant le jeu des 1000 euros avec Nicolas Soufflet, j'ai le temps de vous rappeler qu'après le Gers, nous serons dans les Alpes-Maritimes, puis les Bouches-du-Rhône et la Drôme, avant d'aborder en mois de juin la Manche, le Calvados, l'Eure, le Bas-Rhin et la Meurthe-et-Moselle. Merci de nous écrire depuis ces départements. Nicolas, donc dans le Gers, à Castéra-Verduzan.